Évangile selon Marc, chapitre 4, parabole du semeur, versets 1 à 25.
Lecture de la parole. Et il se mit encore à enseigner près de la mer, et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit sur la mer. Et toute la foule était à terre sur le bord de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici un semeur sorti pour semer. Et il arriva qu'en semant, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés, et, parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il dit, qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogèrent touchant la parabole. Et il leur dit, « À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas. » De peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit, ne connaissez-vous pas cette parabole? Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole semée en eux. Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps. Puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, et les soucis du siècle, et la tromperie des richesses, et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole, et elle est sans fruit. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit, l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il leur dit, la lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive si ce n'est afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté.
Lecture de l'étude. Puisque l'homme naturel est incapable de faire la volonté de Dieu, en d'autres termes de porter du fruit, Jésus indique dans ce chapitre comment il pourra en obtenir. Une grande foule se rassemble autour de lui, près de la mer. De nouveau, il monte dans une nacelle, et de là, il enseigne beaucoup de choses par des paraboles, entre autres celle du semeur, où il montre le changement nécessité de la part de Dieu par le misérable état de l'homme naturel. Ce changement consiste à semer dans les cœurs sa parole vivifiante, qui produira des fruits là où elle rencontrera un terrain préparé à la recevoir. Ce changement consiste à semer dans les cœurs sa parole vivifiante, qui produira des fruits là où elle rencontrera un terrain préparé à la recevoir. Jusque-là, sous la loi, Israël était comparé à une vigne dont Dieu n'a pu obtenir que de mauvais fruits. Nous avons déjà examiné cette parabole au chapitre 13 de Matthieu. Ici, nous ne ferons qu'énumérer les divers terrains sur lesquels la parole tombe lorsqu'elle est annoncée, ainsi que Jésus l'explique aux disciples. Il parlait en parabole au peuple qui, en persistant dans son incrédulité, tombait sous le jugement prononcé par l'Éternel en Ésaïe 6, versets 9 et 10.
Et il dit, « Va et dis à ce peuple, en entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, et rend ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie des yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. »
Cependant, au verset 9, après avoir présenté les paraboles, il laisse chacun sous la responsabilité de ce qu'il a entendu, disant « Qui a des oreilles pour entendre qu'il entende ? Il faut la foi pour recevoir ce que Dieu dit, mais la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. » Romains 10, verset 17. La première catégorie se compose de ceux dont le cœur ressemble à un chemin. La semence ne peut y pénétrer, et le diable, qui s'oppose toujours à la conversion d'une âme, s'empresse d'enlever la semence restée à la surface, en présentant au cœur des choses qui le distraient. Cela lui est facile. Il y a tant d'objets par lesquels il détourne de la parole. La semence est souvent ravie avant même que l'on soit sorti du lieu où elle a été répandue. La seconde catégorie est celle où la parole tombe dans les lieux pierreux. Il n'y a pas de terre profonde. Elle lève aussitôt. Des effets sont produits. On a pu manifester de la satisfaction d'avoir entendu l'Évangile. On a pu même prendre cela pour la conversion. On a pris de bonnes résolutions. Mais le fond du terrain, un cœur préparé, manque. Lorsque ces bons effets se heurtent à l'opposition que rencontre dans ce monde ce qui est de Dieu, ils disparaissent. Le soleil de l'opprobre et de la persécution détruit tout, même lorsqu'il n'est pas très ardent. Dans le troisième terrain, celui où croissent les épines, les manifestations de ce que l'on a entendu demeurent un peu plus longtemps que dans le cas précédent. Mais la parole n'a pas eu assez de puissance pour délivrer le cœur des soucis de ce siècle, de la tromperie des richesses et des convoitises à l'égard d'autre chose. Marc est le seul évangéliste qui ait cette dernière phrase. On veut mener de front les choses du monde et celles de Dieu. Cela dure un peu, puis finalement les épines étouffent la parole et les effets qu'elle a pu produire pendant un temps, aucun fruit n'est venu à maturité. Ceux qui entendent la parole et la reçoivent forment la quatrième classe. C'est la bonne terre. Il n'est pas dit comment cette terre devient bonne, ni combien il fallut de temps pour la préparer. Nous savons que cette préparation a lieu par l'action de la parole, non seulement entendue, mais reçue lorsqu'elle fut présentée. Du fruit a été produit, un 30, un 60 et un 100. Ici, l'énumération des fruits produits va en progressant, probablement parce que Marc présente l'œuvre du divin serviteur. En Matthieu, l'énumération va en diminuant, 100, 60 et 30. En Luc, le fruit est produit au centuple. Il est porté avec patience. C'est le travail de la grâce. Luc 8, verset 15.
Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience.
À partir du verset 21, l'enseignement tout à fait spécial à l'Évangile selon Marc est en rapport avec la responsabilité du serviteur. Le service étant ici ce que l'Esprit de Dieu a en vue. C'est pourquoi il dit aux disciples et à tout croyant aujourd'hui, « La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe ?» La parole de Dieu, opérant en celui qui l'a reçue, produit la lumière. Or personne de sensé n'allume une lampe avec la pensée qu'elle n'éclairera pas. Chaque croyant est une lampe que Dieu a allumée au moyen de sa parole, afin qu'elle projette la lumière divine autour de lui, soit par le témoignage que tous nous devons rendre, soit par un service spécial comme l'évangélisation. Ainsi, tous sont responsables de ne pas cacher la lumière, car il faudra avoir affaire avec Dieu, et alors tout viendra en évidence. Nous savons que c'est inutile de vouloir cacher quelque chose à Dieu. Au verset 23, il est dit de nouveau, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Au verset 9, cet avertissement s'adresse aux foules, aux inconvertis, chacun étant responsable de ce qu'il a entendu. Mais ici, l'exhortation est adressée à ceux qui ont reçu la parole, afin qu'ils prennent garde à la manière dont ils accomplissent leur service, à l'emploi de ce qu'ils ont reçu. En vertu de la mort de Christ, le croyant échappe au jugement qu'il avait mérité, mais il a affaire au gouvernement de Dieu, qui rétribuera chacun selon sa fidélité durant sa vie, à partir de sa conversion. C'est pourquoi Jésus dit « Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à quiconque a, il sera donné. Et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. » Paroles très sérieuses par lesquelles Dieu sonde nos cœurs et nos consciences, nous demandant dans quelle mesure nous mesurons à d'autres les paroles de grâce et de vérité que nous avons reçues, comme une lampe allumée répand autour d'elle sa lumière. Pour le moment, cela peut paraître n'avoir pas de graves conséquences, mais le jour approche où il n'y aura rien de secret qui ne soit manifesté et rien de caché qui ne vienne en évidence. En ce jour-là, selon la juste appréciation de Dieu, il sera mesuré à chacun selon ce qu'il aura mesuré. Déjà maintenant, Dieu ajoute des bénédictions à ceux qui sont fidèles. À vous qui entendez, il sera ajouté, car à quiconque a, il sera donné. Le moyen d'être enrichi, c'est de faire valoir ce que l'on a déjà, tandis qu'à celui qui s'est contenté d'une profession sans vie, au jour du jugement, ce qu'il a eu lui sera ôté. Puissent ces paroles du Seigneur nous rendre tous attentifs à la responsabilité qui nous incombe de répandre la lumière par une vie d'obéissance et de fidélité à Christ, durant le peu de temps qui nous sépare du moment où notre vie tout entière sera manifestée dans la pleine lumière, alors que nous ne pourrons pas recommencer pour faire mieux. Souvenons-nous tous des deux avertissements des versets 9 et 23 de notre chapitre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Deux paraboles du royaume de Dieu, versets 26 à 34.
Lecture de la parole. Il dit aussi, « Ainsi est le royaume de Dieu. C'est comme si un homme jetait de la semence sur la terre et dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut sans qu'il sache comment. La terre produit spontanément du fruit, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. » Il disait aussi, « Comment comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et après qu'il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les herbes et jette de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Et par plusieurs paraboles de cette sorte, il leur annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre, mais il ne leur parlait pas sans parabole. Et en particulier, il interprétait tout à ses disciples. »
Lecture de l'étude. Nous avons dans ces versets deux des paraboles du chapitre 13 de Matthieu, celle qui correspond à la parabole de l'ivraie et celle du grain de moutarde qui devient un grand arbre. Ici, elles présentent un enseignement qui diffère passablement de celui de Matthieu. La raison se trouve dans la différence qui caractérise les deux évangiles. Jésus est celui qui a commencé à semer sur cette terre. Son œuvre s'est continuée par ceux qu'il a appelés à cela, et lui est monté au ciel. Là, il attend le moment de la moisson, où il recueillera tout le fruit des semailles, comme en Matthieu 13, verset 30.
Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier.
Pendant ce temps, il est comme un homme qui, après avoir semé, ne s'occupe plus de son champ. La semence germe, la plante croît comme à son insu, et il ne s'en occupe que lorsque la moisson arrive. Cette parabole est une image du royaume de Dieu en l'absence de Christ. Il a semé, il est monté au ciel. En apparence, il ne s'occupe plus des résultats de son œuvre jusqu'au moment où il introduira dans le ciel ceux qui auront cru pendant son absence. La parabole du grain de moutarde présente une autre forme extérieure du royaume de Dieu en l'absence de Christ. Ce sont des résultats visibles, mais différents de ceux que le divin ouvrier voulait produire. Au lieu de garder son caractère primitif de petitesse, d'humilité, quand il ne tenait point de place dans le monde, le royaume de Dieu a pris la forme d'une puissance protectrice que représente le grand arbre issu de la petite semence de moutarde, emblème de l'humilité qui aurait dû caractériser le royaume. Si l'on considère ce qu'est devenue l'Église extérieurement, elle apparaît comme une grande puissance qui a protégé, non pas ceux qui sèment la parole, mais ceux qui lui reconnaissaient la grandeur qu'elle s'était acquise. Son autorité s'exerçait sur des rois et des peuples, et elle a protégé les plus grands ennemis de Christ, ainsi que l'histoire de l'Église nous le montre. Les vrais disciples du royaume de Dieu dépendent du Seigneur, et ils n'ont pas à rechercher d'autre protection. Jésus prononça encore dans ce moment plusieurs paraboles de cette sorte, et il dit, sans doute celles rapportées en Matthieu 13. Il les interprète en particulier aux disciples, mais aux foules il ne parlait qu'en paraboles. Remarquons que Jésus ne prend cette forme de langage qu'à partir du moment où son rejet est manifeste. Jusqu'à ce chapitre, il n'a pas prononcé de paraboles ni en Matthieu jusqu'au chapitre 13, ni en Luc jusqu'au chapitre 8. Dans l'évangile selon Jean, il n'y en a pas. Dans cet évangile, Jésus n'est pas présenté au peuple. Dès le début, les Juifs sont considérés comme réprouvés et Jésus rejeté. La nouvelle naissance est immédiatement introduite. Chapitre 1, verset 10 à 13.
Il était dans le monde et le monde fut fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Au chapitre 12, qui termine le ministère public du Fils de Dieu, nous lisons les mêmes citations d'Ésaïe 6, versets 9 à 10, qui avaient leur accomplissement parce que le peuple n'avait pas cru les paroles du Fils de Dieu, malgré tous les miracles qu'il avait accomplis. Jean 12, versets 37 à 43.
Et quoi qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui. Afin que la parole d'Ésaïe le prophète qu'il prononça fût accomplie, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu'Ésaïe dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux et qu'ils n'entendent pas du cœur, et qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui, mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu.
Jésus dort pendant la tempête, versets 35 à 41.
Lecture de la parole. Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, passons à l'autre rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle, comme il était. et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer « Fais silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux « Qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?»
Lecture de l'étude. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons à l'autre rive. » Après avoir congédié les foules, ils s'embarquèrent, ayant pris Jésus, comme il était, il dit. Mais peu après, une tempête se leva et les vagues remplissaient le bateau. Malgré l'orage, Jésus dormait à la poupe sur un oreiller. Les disciples, en détresse, ne comprenant pas qu'il pût dormir dans un tel moment, le réveillèrent en lui disant « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Les disciples n'avaient pas encore compris qui était leur maître, et ils n'avaient pas pris garde à la parole qu'il leur avait dite « Passons à l'autre rive ». S'ils l'avaient cru, ils auraient été certains d'arriver malgré l'orage. Leur maître était Dieu, le Créateur des ondes et des disciples. Malgré son humanité et son humilité, il était toujours le même. Il n'était pas possible qu'il périt par les eaux qu'il avait créées, ni qu'il laissât périr ceux qu'il était venu sauver. Parfaitement calme, Jésus, le serviteur fatigué, trouvait du repos dans un moment où son service le laissait libre de dormir, repos qui fut troublé par le manque de foi des disciples, plus que par l'orage. S'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer « Fais silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus use de sa puissance divine en faveur des siens. Jamais il ne le fit pour lui-même. En imposant le silence aux éléments déchaînés, il calmait le cœur des disciples qui ignoraient qu'ils n'étaient pas plus en danger dans la tempête qu'avec le temps calme, du moment que Jésus était avec eux. Aussi, il put leur dire « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Lorsque Jésus eut calmé la tempête, ils furent saisis d'une grande peur et dirent entre eux « Qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Combien l'homme est un être petit et faible. S'il se trouve en présence des éléments naturels plus puissants que lui, il est effrayé, et il ne l'est pas moins devant la puissance de Dieu, même lorsqu'elle opère en sa faveur. Dans cette circonstance, le Seigneur voulut apprendre à ses disciples, et à nous aujourd'hui, que nous ne devons pas nous laisser effrayer par les circonstances que nous rencontrons sur notre route, au travers de la mer agitée de ce monde, car Jésus est avec nous selon sa promesse. Si Dieu permet que nous rencontrions des difficultés insurmontables à nos yeux, c'est afin de nous apprendre ce que sont sa bonté, son amour, sa patience, toujours actifs en faveur des siens et à la disposition de la foi. Si nous avons pris avec nous le Seigneur comme il était, méprisé, rejeté, mais le Dieu Sauveur, le Tout-Puissant, invisible aux yeux de la chair, toujours présente à la fois, nous n'aurons rien à craindre. C'est lui qui nous a mis en chemin pour le ciel, et jusqu'à ce que nous ayons atteint ce rivage éternel, il est avec nous et pour nous, et il désire voir notre foi se manifester dans la tranquillité, au milieu des circonstances les plus adverses.